Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, on a le fou rire avant de commencer cette magnifique rencontre avec mon frère de cœur, Jean. Jean. Ça va bien en crime. On coupe pas rien, on coupe pas rien. Jean, hey, Jean, imagine-toi, incroyable, hein? François Godreau. Vive Robert! Mon frère de cœur, pourquoi je dis mon frère de cœur? C'est une personne que dans les 4 dernières années qu'on a travaillé ensemble, on était partenaires ensemble, on a fait de grandes choses, de belles choses. Et depuis environ à peu près 8 mois, on a décidé de prendre chacun notre chemin, chacun son chemin de vérité. Et comment est-ce que je pourrais présenter François? Écoutez, avant tout, François, pour moi, ce qui représente la solidité, le côté génie que j'ai déjà dit, que je dis encore, quotient intellectuel élevé pour moi, à 130 au maximum, avec des idées de wow qui viennent parfois au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer. Et avant tout aussi, François, c'est un père de famille de 2 beaux enfants, une fille, une vingtaine d'années, et un petit gars de 3 ans presque, Phoenix. Un conjoint exceptionnel aussi, selon ce que Natacha a dit. Coach d'affaires et explorateur de l'identité. François, merci d'être là. Merci de me permettre puis de rire avec mon erreur du début de t'avoir appelé. Je ne sais pas d'où je pars, mais écoutez, c'est correct. Ça fait partie de la nature de Robert. Puis merci d'être là. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous-là. De donner généreusement tes connaissances aujourd'hui.
Ben écoute, je vais essayer d'être à la hauteur de cette belle présentation-là. Merci premièrement, de cette belle présentation-là claire. Aujourd'hui, on va parler d'identité, puis on va parler du défi que la plupart des gens ont de simplement répondre à la question « Qui es-tu? » Tu sais, c'est une grande question, mais je pense que c'est une question qui embête à peu près tout le monde. Parce qu'on est beaucoup dans qu'est-ce que l'autre veut entendre à ce moment-là. Tu sais, on explorera ces éléments-là. Mais tu sais, tu parlais de dire on a pris chacun notre chemin, on a pris chacun notre chemin de vérité, puis j'ai été longtemps à croire que dans les derniers mois, dans les dernières années, j'avais orchestré un virage. Puis c'est un peu faux de dire ça, non, j'ai orchestré un virage, j'ai plutôt laissé derrière qui n'était pas réellement moi. Laisser derrière ce qui m'empêchait d'avancer au rythme que je voulais avancer sur le chemin que j'ai envie d'avancer. Puis tu sais, si je suis honnête avec moi, depuis 2014 que je suis en affaires, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, que j'ai envie de dire, que j'ai suivi le flow, que j'ai suivi les opportunités. Puis c'est l'apanage d'un entrepreneur, hein, saisir les opportunités. Mais il faut toujours essayer de comprendre quel est l'élan de l'entrepreneur, parce qu'il existe plusieurs types d'entrepreneurs. Puis l'entrepreneur que je suis, ben c'est un jour, je me suis réveillé, puis j'avais la sensation de ne pas être exactement à l'endroit où est-ce que je devais être. À l'endroit où est-ce que je devais exercer mes élans. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai fait avant ça qui m'a emmené aujourd'hui, hein, des diplômes, le travail que j'ai fait, notamment comme graphiste, en marketing, en branding, et qui aujourd'hui me dit, ben OK, François, quand je te donne mille et un choix, mais que je te demande d'en faire un, tu fais quoi? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Qu'est-ce qui est cohérent pour toi? Et puis on a coécrit un livre ensemble. Et ce livre-là, dans la coécriture du livre Les 7 prisons de l'être, ça me confirmait à quel point l'identité est encore mon enjeu sur lequel je tentais de fuir le plus possible. Et tu sais, quand on dit assumer pleinement son identité, assumer pleinement qui on a mille et une définitions à ça, puis on essaie de rationaliser, d'expliquer à peu près qui on est aux autres. La question « Qui es-tu? » Ben, pourquoi ça devient différent? Qu'est-ce que tu veux entendre de moi? Et finalement, l'identité pure, en cette absence d'identité-là, si on veut, qui est à l'intérieur de nous et qui nous dit, ben, c'est un ressenti. C'est comme si on disait, je ressens que là, je suis sur la bonne voie ou je ressens que je suis pas sur la bonne voie. Je ressens que là, c'est moi ou je ressens que là, c'est pas moi. C'est une sensation dans le corps. La réalité, c'est que cette sensation-là dans le corps, plus on vieillit, plus elle nous quitte. Et jusqu'à un certain moment où est-ce qu'on sent de besoin d'y revenir. Et je pense que c'est un peu derrière ce besoin-là d'y revenir. Et quand j'ai pris cette décision-là, était complètement irrationnel. Je me rappelle, je suis en 2019, je prépare un voyage en Europe dans lequel j'ai 3 ateliers à livrer en 12 jours. Puis finalement, je suis malade. Je suis malade, je suis pris, j'ai fait coup sur coup une bronchite, une pneumonie. Il y a quelques jours de partir, je suis dans une sinusite complète là, de radiographie, sinus, incapable de prendre l'avion, ça va être souffrant, j'aurai pas l'énergie pour le faire. Mais qu'est-ce qui est à comprendre de ça? Il faut comprendre que le système respiratoire puis tout ce qui circule, c'est qu'est-ce que tu n'arrives pas à dire. J'avais tellement désiré où est-ce que j'étais rendu en 2019, hein, je l'avais désiré dans prédire, contrôler. Je prédis, je mets en place des trimestres, je pose des actions, je mets en place des trucs. J'avais, tout me semblait clair, où est-ce que je voulais aller. Meilleure année financière et boum, la santé me dit. Je pense qu'il y a juste une petite friction à l'intérieur de toi que tu dis pas totalement que t'as pas de fun à être là. C'est pas là que tu as envie d'être. C'est un prétexte que tu te donnes. Et j'ai envie de dire, on s'est connus en 2019, je pense. Ouais. On s'est connus en 2019, on s'est connus à peu près dans cette période-là, mais c'est le prétexte qui nous a unis. C'est Robert qui cherchait sa voie à travers ce qu'il faisait. Quand c'est dans les tripes, ça va, mais ça a toujours été un prétexte. Quand tu me dis, ben, t'es un génie, t'as mille et une idées, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mille et une idées, mais c'est rarement les miennes. J'ai découvert derrière un outil qui est le design humain à quel point je suis une antenne à idées. Bonne nouvelle! Maintenant, c'est soit que tu es dans l'ego de croire que tout vient de toi et que tu vis avec la frustration que la plupart de ces idées-là ne seront jamais appliquées, ou tu acceptes d'être canal à idées, mais que tu écoutes. Écoute la résonance en toi, résonance dans l'autre, puis permets-lui d'explorer où est-ce que lui veut aller, pas où est-ce que toi tu veux l'emmener. Et c'est là que j'ai fait un switch beaucoup sur en le consultant, le stratège qui dit, moi là, je vais t'emmener où est-ce que tu veux aller? Regarde-moi bien aller. C'est de la bullshit, ça. Je suis en train de dire que c'était de la bullshit pour vrai, là, tu sais, dans mon identité pure. Les outils qu'on m'a donnés, les dons qu'on m'a donnés, c'est cette voie d'explorer vers ton chemin. C'est pour ça le coaching, c'est pour ça cette approche-là. Mais il faut que je travaille l'ego, il faut que je travaille beaucoup de choses, mais il faut que je travaille mon identité. Je ne peux pas accompagner sur l'identité si je ne travaille pas sur mon identité. Et le prétexte de la rencontre d'aujourd'hui, pour moi, tu sais, je te disais d'entrée de jeu, je n'ai rien de préparé. Ne serait-ce qu'une seule phrase qui va se co-créer à travers de ça. C'est une croyance qui m'a littéralement choqué intérieurement, qui m'a confronté, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une vérité, qu'on l'accepte ou pas, c'est une vérité. C'est qu'on n'existe qu'à travers le regard des autres. Maintenant, ça se peut que toi qui écoutes ça, ça te déchire en dedans de toi, ça te challenge. Mais c'est une vérité. C'est une vérité bidirectionnelle. Dans cette vérité bidirectionnelle-là, Robert, j'ai envie de dire que on est des humains vraiment égocentriques. Ce qui nous challenge là, dans on n'existe qu'à travers le regard des autres, c'est toutes les fois où est-ce qu'on n'était pas satisfait du regard que l'autre posait sur nous. Puis, tu sais, il y a une phrase qu'on entend régulièrement dans le développement personnel en disant ben, tu peux devenir qui tu veux dans le monde, puis fous-toi des autres. C'est pas important ce que les autres disent de toi, mais toi, concentre-toi sur qu'est-ce que tu penses de toi, puis bâtis-toi à partir de ça. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi de la bullshit, tout ça. On ne peut pas devenir qui on veut. On peut juste assumer pleinement et fleurir qui on est à l'intérieur de nous. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas cette personne-là. Il est caché derrière tout ce qu'on a pensé qu'on était tout au long de notre vie. Mais moi, là, puis je dis toujours ça à mes groupes, puis, chose, même si je voulais devenir là, une nageuse synchronisée, je voulais devenir empereur de Chine ou le pape, ou, tu sais, ah, tu peux devenir, non, c'est pas vrai, tu peux devenir qui tu veux. Dans, puis même si je voudrais devenir un joueur de basket professionnel, je dois travailler beaucoup plus que quelqu'un qui mesure 8 pieds. Je suis pas très grand, moi, dans la vie. Mais j'ai mes forces. Mais à quel endroit je suis à ma place, que je suis bien, que je suis prêt à lever la main et dire, hey, je suis vraiment bien ici.
Et assumer, hein, François,
Hey, c'est
et
ça,
comme
c'est
c'est
assumer.
d'assumer sa différence aussi, parce que des fois, on ne veut pas le voir.
C'est ça. Tu sais, puis derrière tout ça, Robert, dans tout ce qu'on vient déposer, ça, on n'existe qu'à travers le regard des autres. Tu sais, quand je dis que le livre m'a challengé, pour ceux qui l'ont lu, tu sais, il y a une histoire derrière tout ça. Oui, il y a des clés pour se libérer des prisons de l'âme, mais il y a une histoire. Cette histoire-là a été canalisée, a été fuite. Tu sais, je me suis beaucoup chargé de cette histoire-là, puis c'est OK, mais elle m'a libéré à travers de ça. Tu sais, ça a été magique à travers ce livre-là. Tu sais, on l'a coécrit, on ne s'est pas parlé. Ça arrive de où? On s'en fout. Mais ça a fait le travail à l'intérieur de moi que ça a dû faire. Et une des grands éléments que j'ai réalisé à travers l'identité, qui est à peu près vrai pour tout, c'est le contrôle de soi. Hein, on entend beaucoup, hey, moi je suis quelqu'un, tu sais, puis nuancer entre le contrôle et la maîtrise de soi. Le contrôle, c'est, puis j'en parlais un peu plus tôt, c'est de dire, ben, OK, je prédis qui je vais être et je m'assure de contrôler que je m'enligne vers qui je vais être. Versus de juste dire, hey, je ressens qui je veux être et maintenant je réponds. Je laisse la vie répondre. Puis m'emmener là, puis le restant du temps, tasse-toi de là, puis accepte ce que tu réponds en fonction des élans que tu as à l'intérieur de toi, parce que ça, c'est ta vérité. Tu sais, il y a quelques années, là, j'ai lu à peu, ben, je lis encore beaucoup sur l'identité. J'ai pas compris pourquoi la vie m'emmenait tout le temps vers l'identité. T'sais, quand j'ai commencé comme graphiste, j'ai tout le temps, j'étais en identité visuelle, je travaillais beaucoup plus sur cet aspect-là. En marketing, rapidement, je me suis intéressé sur le branding, les fondements du branding, la profondeur du branding. On a travaillé ensemble là-dessus. T'sais, c'est plus grand que l'image. J'ai toujours eu, la vie me ramenait tout le temps vers ces éléments-là au niveau de l'identité. Je me posais pas mille et une questions. Alors je répondais, mais c'est pas vrai. C'est comme si je disais, ben, OK, ce que je sens que la vie est là, je vais la traduire. En cours de route, je vais comme décider que ça va être ça pour moi, ça va être ça pour moi. Puis quand ça l'a un peu relâché à l'intérieur de moi, ça a juste dit, hey, oh, hey, prends ton gaz égal. Je t'ai préparé tranquillement, je t'ai emmené plein d'éléments au niveau de l'identité, je t'ai permis d'en lire plein. Maintenant, probablement que tu es mêlé comme ça n'a pas de sens. Puis c'est vrai que j'étais vraiment mêlé. J'ai à peu près lié. Tu sais, si on s'intéresse un peu à l'identité créée, hein, la psychologie veut créer, construire l'identité, puis c'est OK. En branding, c'est beaucoup en construction identitaire. Je vais modeler qui tu vas devenir, comment les gens vont te percevoir. Je vais modeler beaucoup à travers de ça. Mais les fondements identitaires, là, c'est tellement simple, c'est tellement ridicule, on ne devrait même pas avoir de difficulté à exprimer qui on est. Le problème, c'est que c'est nous qui mettions la merde dans le fan. C'est nous qui complexifions les choses. Tu sais, quand on vient au monde, là, tu parlais de Phoenix, ce petit garçon va avoir bientôt 3 ans. Puis je me nettoie beaucoup à travers Phoenix parce que j'ai l'impression de regarder l'enfant dans lequel c'était vraiment pas compliqué la vie. C'était vraiment pas compliqué la vie à ce moment-là. Tu sais, on se lève le matin, puis ce que la vie nous demande, c'est d'être heureux, de jouer. Puis il y a juste des adultes qui viennent compromettre hein, eux autres. Rigidité, prédire, contrôler. Tu manges à telle heure, tu te lèves, oh, la garderie, etc. C'est l'adulte en nous. Si on revient à l'enfant en nous, c'est hyper simple. C'est une identité c'est véritable. La seule affaire qu'elle veut, elle, c'est elle veut vivre. Le jeune enfant à 3 ans, il est dans l'identité qui est véritable. Si je lui pose la question, Phoenix, qui es-tu? Il va me regarder. Pas, il va me regarder comme l'adulte de 35 ans qui dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est plutôt en dire, pourquoi tu me poses cette question-là? Il va me répondre simplement, je suis Phoenix. C'est ça qu'il va me répondre. C'est sûr que c'est ça qu'il va me répondre. Mais en vieillissant, vers l'âge à peu près de 8-10 ans, ben Phoenix, il va réaliser qu'il peut être quelqu'un dans la vie. Il va commencer à le voir autour de lui. Des gens qui ont des métiers, on va se promener dans des villes, il va voir qu'il y en a qui sont sur le seuil de la pauvreté, il va voir qu'il y a d'autres personnes qui ont l'air plus heureux que d'autres, il va voir qu'il y a des vies. Tu sais, il commence à être teinté beaucoup plus. Et ça va aller beaucoup plus rapidement, l'influence de l'identité chez nous, hein, les médias sociaux, la comparaison, tout ce qu'on a à travers de nous. Mais ça, là, on a tous passé à travers ce cycle-là, vers l'âge de 8-10 ans, hein, qui se loge, au lieu d'être dans l'identité véritable, c'est dans l'identité destinée. Hein, c'est comme sentir qu'on est là pour quelque chose. C'est pas vrai que là, je suis juste là pour jouer toute ma vie. Faire que jouer. Je peux-tu faire quelque chose? Papa, il y a un métier. Moi, j'ai 8-10 ans, j'ai pas de métier. On pense que ça doit transiger par ça. Mais si on revient vers 8-10 ans, là, nos premiers élans, là, puis des fois, c'est très irrationnel. Il y en a que ça va être, ils veulent aider. Il y en a que ça va être, je veux faire. Il y en a que ça va être, je veux construire. Donc, c'est des élans qui apparaissent naturellement dans notre vie et qui nous quittent jamais. C'est juste qu'il y en a qu'on écoute, qu'on réussit à vraiment traduire dans un métier, et il y en a d'autres qui sont attachés après un élastique et ça revient toujours. On se dit, hey, t'as pas respecté ça. T'as pas respecté ça. J'essayais de réfléchir. Ah, moi, j'ai une vie très rangée, si je veux. Tu sais, j'ai pas de vécu de grande épreuve quand j'étais jeune, mais j'ai accordé beaucoup de l'importance à des épreuves qui n'en étaient pas tellement. Ah, tu sais, moi, je suis. Faire une histoire courte sur mon histoire de vie. Moi, j'ai grandi dans un petit village à Saint-Cyril-de-Wendover, pas très loin de Drummondville. Quand moi, je suis venu au monde, mon père était alcoolique. Mes grands-parents avaient l'hôtel du village, donc ils étaient dans la jarre à bonbons, si on peut exprimer ça comme ça. Mais moi, j'ai grandi avec l'identité du fils d'un père alcoolique. Mais je suis pas ça, là. Je suis pas ça. Mais je suis aussi grandi dans l'identité d'un père alcoolique absent, deuxième d'une famille. Ma mère s'occupait de mes grands-parents. Donc, François, c'est cool. Ça serait cool si tu es calme, tu es dans le coin, tu ne déranges pas personne. Il n'y a jamais personne qui m'a opprimé. J'ai senti que c'était la place que je devais prendre et pendant longtemps, j'ai gardé cette place-là. Pendant longtemps, j'ai fait vivre l'identité de ma sœur qui prenait de la place et qui me volait ma place. Et c'est un rôle. C'est un rôle que moi, je lui avais accordé. Quand moi, j'étais jeune, mon grand-père était d'un deuxième mariage. Mon grand-père est né en 1899. Un deuxième mariage, il a fait la Première Guerre mondiale à 17 ans. Il a grandi chez ses grands-parents. On ne sait pas trop l'histoire derrière ça, mais c'est un grand-père qui était souffrant. Mais c'est un grand-père qui était entreprenant. Il a eu plein de business. Il savait pas, il savait pas écrire ni lire, mais il savait compter pas à peu près. Il savait comment obtenir ce qu'il voulait. Dans la famille, c'était quelqu'un qui était très austère. Il a toujours été austère à peu près à tous les petits-enfants, sauf quand moi, je suis arrivé. Donc, à travers le regard de mon grand-père, moi, j'étais quelqu'un. Moi, j'étais précieux. Mon grand-père avait 82 ans quand moi, je suis venu au monde. Il se couchait par terre. Il n'avait jamais fait ça. Jamais avec ses enfants. Et jamais avec les autres petits-enfants qui étaient là avant. Fait que pensez l'importance que j'avais, à quel point le regard posé sur moi était aussi le regard envieux, jaloux. Hein, ma mère qui n'a jamais fait ça pour lui. Ma grand-mère qui le répétait continuellement. Quand j'étais jeune, on m'a dit que c'est ça qui se passait, mais c'est ça qui, tu sais, quand je dis on n'existe qu'à travers le regard des autres, ça c'était vrai. Mais mon grand-père est décédé à l'âge de 6-7, je vais avoir fin de mes 6 ans, bientôt 7 ans. On reçoit, ben, moi j'ai grandi chez mes grands-parents, mais ma mère s'en occupait. Et ben, du jour au lendemain, mon grand-père est rentré à l'hôpital, il a chuté durant la nuit, il a paralysé. Et la personne qui est importante pour moi, lorsque je l'ai revue, était dans son cercueil. Ma mère incapable de gérer deuil, vous comprenez que j'ai un peu absorbé,
T'es resté dans l'isolement
perdu
comme
cette,
ça, là.
j'ai perdu cette importance-là du jour au lendemain, ce qui a fait en sorte que je me suis beaucoup coupé. Mon père a essayé longtemps de prendre cette place-là en tant que père. Je ne lui accordais pas cette place-là. C'est normal. Je faisais vivre l'étiquette du fils du père alcoolique. Mais ça, j'ai compris ça, Robert, vraiment tard, que on a un pouvoir. Quand je dis on existe à travers le regard des autres, on se définit par le regard des autres, mais on sous-estime à quel point on définit l'autre. Et on a une puissance, soit positive ou négative. Et tout est une question d'intention. Moi, ça s'est transformé à l'intérieur de moi quand j'ai compris à quel point j'avais un regard d'étiquette et de puissance sur les rôles des autres. Et j'étais en train de les définir. En se dire, OK, c'est un peu égocentrique de penser qu'à seul toi, tu définis ça. Oui, mais moi, avec la parole, qui en discute avec ma sœur, qui en discute avec d'autres personnes, qui fait vivre ça, influence le regard des autres par rapport à mon père, à ma mère, à tout ce que tu veux. Et ça, là, c'est vrai pour nos enfants. Nos enfants, mais au risque de vous décevoir. Ils nous sont confiés, ils ne nous appartiennent pas. On dit nos enfants, mais ils ne nous appartiennent pas. Dans le fond, c'est un rôle qui nous est confié. Donc, Robert, oui, hein, puis d'entrée de jeu, c'est parfait, je l'accepte ce rôle-là, puis j'aime bien qu'on m'identifie. Puis moi, j'ai été un père complètement différent. Il faut comprendre que tu dis à ma fille, elle a 20 ans, mon garçon va avoir 3 ans. Il y a une différence entre les deux. On a à peu près les mêmes différences entre toi et ta fille, je crois. Mais derrière ça se cachent, moi, deux rôles de père complètement différents, deux identités. Moi, je suis où là-dedans? Je suis dans. J'ai pas été le père que j'aurais voulu avec Alexia, mais je peux me rattraper avec. Non. Ça, là, c'est moi qui ai pris dans les identités passées. Dans le présent, une identité, là, retenez ça. Si on n'existe qu'à travers le regard des autres, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ferme les yeux, chaque nuit, chaque journée est une journée neuve. Chaque journée est un nouveau regard. Et votre regard qui est posé sur vous va toujours être influencé parce que ce que vous acceptez de faire vivre par votre regard. Quand moi je me lève chaque matin, puis je veux être le père que je veux être pour Alexis à 20 ans, en même temps que je veux être le père pour Phoenix, 3 ans, mais je suis pas le père qui se sent coupable. Je suis pas le père qui. Je suis impossible que je sois le même père. Parce qu'ils n'ont pas la même réalité, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas la même écoute. Si je ne mets que le focus sur un père qui est englobé, c'est sûr que je déclenche ma grande fille de 20 ans, qui elle va ressentir que je ne suis pas le même père pour Phoenix que j'ai été pour elle. Mais quand je suis le père d'Alexia 20 ans avec la réalité de 20 ans, elle peut, c'est impossible qu'elle tombe dans ces comparaisons-là, c'est impossible. Et plus je l'expérimente, plus c'est ce qui se produit. Autre chose que je peux vous partager par rapport à mon père. Longtemps, j'ai fait vivre l'identité de mon père. Ah, moi, je suis pas alcoolique. Puis ça appartient à mon père. Cette étiquette-là, ce rôle-là appartient à mon père. Moi, j'ai décidé d'arrêter de le faire vivre. Puis en même temps, je le fais vivre à chaque fois que je le nomme. Je le fais vivre à chaque fois que je le nomme, mais ce n'est pas la même charge émotive qu'il y a en ce moment. C'est une charge de fierté quand je le dis parce que mon père, ça fait 35 ans qu'il a arrêté de boire. Mais avant, je n'aurais jamais ressenti la fierté de célébrer avec lui les 35 ans parce que je traînais avec moi l'identité du fils souffrant du père alcoolique. Je ne suis pas le fils d'un père alcoolique. Je suis aujourd'hui François, 43 ans, qui a un regard aimant sur son père et qui a une fierté de dire, regarde, ça fait 35 ans, tu vis bien à la retraite, tu es bien entouré, merveilleux. C'est ça que je dois nourrir, c'est mon regard à chaque jour. Quand je dis, ben OK, quand je me couche, aujourd'hui, là, quand je me couche, ben oui, OK, il y a les gratitudes qui sont présentes un peu plus parce que s'il y a quelque chose que j'ai abandonné dans ma capacité de nourrir mon identité sur le sens du monde, ben c'est ma capacité à m'émerveiller, à contempler. Contempler quoi? C'est la fierté d'être qui je suis dans le ressenti. Sinon, je suis dans qui j'ai pas été. Je ne suis jamais dans qui je n'ai pas été aujourd'hui. Maintenant, ma question le soir est tout le temps la même. C'est est-ce qu'aujourd'hui, inconsciemment, j'ai défini quelqu'un avec une intention qui n'était pas la bonne? Et ça arrive que c'est oui, là, on est humain, là. Ça arrive que c'est oui. Mais quand je termine ça, je me permets le lendemain à dire, ben OK, si je repose le regard sur cette personne-là, comment je le définis? Comment ça se produit? Sais, je sais pas comment tu reçois ça. Tu sais, pour moi, c'est. Des fois, c'est. Tu t'expliques ça, Robert, en voulant mieux vulgariser les choses, mais l'identité, on s'entend, c'est un concept qui est difficile à rendre très tangible, à vulgariser comme on voudrait. Parce que mon identité est littéralement différente de toi. Puis le ressenti identitaire, contrairement à de la colère, même de la colère, tu sais, on apprend. Mais la colère pour toi, puis pour moi, c'est pas tangible. Hey, ça, c'est de la colère. Ça. Moi, je ne sais pas, je ne t'ai pas disséqué à savoir. OK, ah oui, tu as raison, là, je le vois, là. On le voit pas. On le voit pas. Notre identité, on la voit pas. On cherche à la définir, à l'expliquer, à la matérialiser sur comment on est vêtu, à comment elle est perçue, en matérialisée dans des maisons, dans des voitures, dans la façon qu'on se comporte, dans les activités qu'on a, dans la façon qu'on se nourrit, tu sais, dans le bien-être, ouais, je suis donc bien mieux qu'un autre, hein. Moi, je prends soin de ma santé. Encore une chose, c'est question d'identité. Je veux être perçu, je veux exister comme quelqu'un qui prend soin de sa santé dans le regard des autres. Tout simplement. À chaque fois qu'on cherche à vouloir extérioriser l'identité, on cherche à exister dans le regard de l'autre. On cherche la validation. On cherche l'explication. Est-ce
C'est
qu'on a
pas moi
besoin de le
qui
faire?
recevais ça, tout le monde qui est là, mais c'est tellement intéressant, c'est puissant, c'est il faut s'arrêter, puis tu sais, prendre un recul, puis prendre la hauteur, puis tu sais, comment vous recevez ça, c'est quand même, il y a de la clarté, là, François, là. C'est clair, c'est précis. Puis, ce que j'aime, mais c'est la façon dont tu amènes, puis c'est tellement ça. T'sais. On dit souvent, ce que l'autre pense, je m'en fous. Là. Ça, quand les gens disent ça, ah, OK, ça se peut que tu es rendu là, encore là, qui je suis, moi, pour dire que la personne, c'est impossible qu'on s'en fout pas. Mais selon le regard de l'autre, ça a un impact chez soi. Ça a un impact chez soi, puis ça nous amène à. En tout cas, pour moi, ça m'amène à voir que c'est là qu'il devient tellement important. De s'entourer justement de gens qui croient en nous, des gens qui ont des étoiles dans les yeux, des yeux brillants quand ils nous regardent, quand ils nous parlent, quand ils nous stimulent, ils croient en nos rêves, ils croient en qu'est-ce qu'on veut créer comme être humain. C'est tellement important. L'environnement, je crois que ça a un impact, une influence tellement grand chez soi. Et c'est là que bien souvent, tu sais, dans mes groupes, tout ça, les gens disent, ouais, mais je dis toujours, sortez de l'isolement affectif. Une des choses qu'on doit faire, c'est de sortir de l'isolement affectif. Pas rester seul, hein, en soi avec qu'est-ce qu'on vit, de le nommer, de le dire, de l'exprimer. Et il y a bien des gens qui disent, ouais, mais j'ai pas personne autour de moi. C'est là qu'il devient important d'avoir au moins une personne que je peux me confier sans recevoir de conseils ou de comment est-ce que je dois me comporter, juste avoir quelqu'un qui peut nous écouter, nous entendre dans qu'est-ce qu'on vit. Puis ça, quand le besoin d'être écouté, il est entendu, il y a un paquet de besoins qui vient se rajouter à ça. Besoin d'être aimé, il est présent. Sécurité, parce que je me sens entendu, ça me sécurise, ça fait un cadre affectif à l'intérieur de moi. Et ça me valorise, ça me crée. Alors, il y a une panoplie de besoins qui vient se présenter à soi, qu'on ait entendu. Alors, l'environnement, je pense que tu es d'accord avec ça, tellement important. Alors, si, le mot de la fin, François, si on reste sur l'environnement, ça serait quoi, tu sais, le côté de l'identité, de se positionner dans son environnement, puis peut-être de faire un nettoyage? Qu'est-ce que tu peux mettre en place, selon toi, à accepter sa différence, si je suis assez clair là, dans qu'est-ce que je nomme? Comment est-ce que tu
Oui,
penses ça, toi?
t'es clair. Oui, t'es clair. T'sais, pour moi, si on revient sur le point de départ avec la phrase "on n'existe qu'à travers le regard des autres", ben, l'environnement est le reflet de qui on est. Aussi simple que ça. Maintenant, quand tu me dis, ben ok, il y a certaines personnes qui disent, ben moi, j'ai pas ces personnes-là ou j'ai pas un environnement sain, ben faut falloir qu'il y ait un conditionnement qui est fait intérieurement et ce conditionnement-là se passe au niveau de l'identité malléable. Hein, l'identité malléable, c'est toute cette partie-là identitaire qu'on peut dire, ben notre ego est logé là, nos croyances sont logées là, les pensées sont logées là, tout ce qu'on reçoit des autres. On finit par le croire. Moi, j'ai envie de dire que les seules identités qui sont pures, et l'identité, là, c'est comme si j'installais le concept identitaire. C'est beaucoup le taoïsme qui emmène cette vision-là de l'identité, du moins. Moi, je l'ai adapté à l'identité, mais c'est à peu près sur l'être en général. C'est-à-dire l'identité, là, de qui on est confortable. De comment on est, c'est comme si c'était un curseur qu'on glisse entre la sagesse de croire qu'on n'est pas grand-chose et l'amour de croire qu'on est tout à la fois. Et là, on glisse le curseur. Normalement, là, on devrait être en équilibre, en quelque sorte, entre les deux. Quelqu'un qui jette juste son dévolu en disant je suis rien, quand je dis je suis rien, accorde trop d'importance, une coupure complète. Tu sais, moi, quand tu me parles de l'environnement, j'ai envie de te ramener sur la simple variable, c'est toi, quel est ton regard sur l'environnement? Parce que la plupart des gens qui reçoivent un reflet négatif envers eux, dans lequel sont vraiment aux prises avec quelque chose qui est inconfortable par rapport à qui ils sont, logés par l'environnement, que ce soit dans le travail, dans le couple, dans l'amitié, dans la famille. Maintenant, si tu faisais un examen de conscience sur quel regard tu projettes sur l'autre. Maintenant, dans le regard que tu projettes sur l'autre, crois-tu vraiment qu'il est ce que tu penses? Es-tu capable de voir la beauté, ou du moins te rappeler la fois où est-ce que tu as rencontré la beauté de l'autre? Parce que la plupart de ces environnements-là ont un jour rencontrer la beauté de l'autre. Et c'est à peu près là sur lequel j'ai envie de dire, on va placer la virgule, puis on va s'installer là. Parce que ça ne va être qu'à ce moment-là que ton environnement va influencer positivement sans qu'il change. Hein? C'est important de voir, on cherche à changer l'autre. Mais là, on a juste à changer le regard qu'on pose sur l'autre et d'être patient. Comme si on venait de semer quelque chose. Et à partir de ce moment-là, quand on revient à la base de chaque journée est une journée neuve, oublie le retour.
Ça, j'aime ça. Chaque journée, c'est simple. Chaque journée est une journée neuve. Comment je veux la vivre?
Puis, je pense que c'est Martin Latulippe qui parle beaucoup de l'identité comme c'est un cumul de toutes les actions qu'on pose qui forgent notre identité. Oui, mais si on pense que chaque fois qu'on se couche insatisfait et qu'on reprend où est-ce qu'on était rendu, des fois, ça nous emmène dans l'amertume de poser des gestes ou dans de la frustration qui change notre regard sur l'autre. C'est comme si on avait une capacité de recommencer à chaque jour. Et là, j'adhère. J'adhère au cumul avec cette simple nuance-là. Parce que c'est un examen de conscience. Tu sais, on accorde beaucoup de pouvoir à l'autre, mais on oublie le pouvoir qu'on a sur l'autre. C'est un peu.
Wow! Merci François Gaudreau. My God, il y a beaucoup de pépites là-dedans. Et j'ai le goût de dire aux gens, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre-là avec François Gaudreau? Puis moi, je pense que c'est même à réécouter pour une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il y a de la précision, il y a de la constance, il y a beaucoup de matière dans qu'est-ce qu'on a reçu. Fait que, moi, je vous dirais, prenez le temps d'aller écouter si c'est possible, bien sûr, pour vous. Et qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que tu retiens dans le ici maintenant de la rencontre avec François Godreau? François Godreau, c'est mon frère de cette belle sagesse. Praise the Lord. Rock and roll, je pose les épaules, mon frère. Je t'aime tellement. Merci tout le monde. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Merci.